La matinale d'Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h en ce jeudi 18 juin. Une date pas comme les autres, une date que l'on connaît tous, une date historique. Et oui, le 18 juin, c'est l'anniversaire de Paul McCartney. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Qui nous écoute se rassure, on va allègrement évoquer l'appel du 18 juin dans cette matinale. Général Roche, je vous salue.
Repos Bidas Pierce, pardon. C'est difficile à dire.
C'est bien aimable. Permission d'écouter oui. Un peu de musique dans votre partition
s'il
à 6h10.
Il y a des moments où on se dit qu'on n'est pas né à la bonne époque. Imaginez au même endroit Otis Redding, Janis Joplin, Bob Dylan, The Who, The Byrds, Jimi Hendrix et j'en passe. Nous allons nous balader dans les allées du festival de Monterey en 1967. If you come to San Francisco, summertime will be loving there.
L'histoire du festival de Monterey en juin 67, racontée par Omblin Roche dans 50 petites minutes sur Europe 1. Au menu de vos autres rendez-vous, l'interview actue à 5h40. On va remonter 80 ans en arrière, le 18 juin 1940, ce jour où un général inconnu des Français a depuis Londres lancé un appel à la résistance. Non à l'armistice, non à l'arrêt des combats, oui à la France libre. Cet appel du 18 juin, on l'a tous entendu, on l'a tous étudié dans nos manuels d'histoire. Mais savez-vous exactement dans quel contexte il a été prononcé? Saviez-vous par exemple que quelques jours avant de s'envoler pour Londres, le général de Gaulle était sur le champ de bataille dans un sidecar en train de mener ses chars au combat? Autant d'anecdotes qu'on va partager avec nous à 5h40 l'historien Dominique Lormier. À 5h25, les doigts dans l'assiette, on va aller dans l'Oise prendre des nouvelles de Luc, notre agriculteur. Il va nous parler du lin frappé de plein fouet par la crise du Covid. Et puis à 5h15, le pressing, les articles les plus insolites à lire ce matin dans la presse. Au menu, des opérations Bisounours, Notre-Dame et des bulles de savon. La météo de ce jeudi 18 juin, c'est avec Laurent Cabrol. Bonjour Laurent.
Bonjour tout le monde, bonjour à vous Julien et Omblin.
Bonjour.
C'est une journée qui s'annonce en amélioration. Allez, quand même, il y aura des orages, il y aura des averses, on n'y échappe pas car le temps ne change pas beaucoup, beaucoup, mais il change quand même un petit peu. Alors les averses et les orages, nous en verrons tout à l'heure sur la partie ouest de la France, alors que dans l'est, dans le nord-est et puis dans le sud, le soleil va finir par s'imposer et les températures vont s'échelonner entre 19 et 25 degrés, un petit peu comme hier. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure Laurent Cabrol, merci à vous. C'est parti pour le premier le journal de votre matinale. Écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 5h.
Il fallait continuer à se battre. On a trouvé très bien qu'il y ait quelqu'un qui veuille que la France continue. À l'époque, c'était un général, bon, mais il y en avait des quantités de généraux.
Le général de Gaulle était jusqu'alors inconnu des Français, mais ses mots ont convaincu nombre d'entre eux de continuer le combat face aux nazis. On célèbre aujourd'hui les 80 ans de l'appel du 18 juin.
C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Tous les enfants pourront retourner à l'école dès lundi.
Dans les crèches, on s'inquiète. Le protocole sanitaire à mettre en place n'a toujours pas été communiqué.
Plus vite on va être au courant, plus vite on va pouvoir organiser les choses et meilleur sera l'accueil des enfants lundi.
Dans ce journal également, la fin peut-être de l'affaire Maddy McCann. La police allemande annonce avoir des preuves de sa mort.
Le premier tour opérateur de France supprime 2/3 de ses postes, 600 salariés sur le carreau.
Et puis le CHU de Toulouse se déchire au sujet des primes Covid. Des directeurs de l'hôpital vont empocher 1 500 euros quand la plupart des soignants toucheront eux 3 fois moins.
On a des collègues qui ont des découverts tous les mois, qui dorment dans leur bagnole. Privilégier les plus hauts salaires dans les administratifs, c'est absolument scandaleux.
5h01 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a 80 ans, jour pour jour, le général de Gaulle entrait dans un studio de la BBC à Londres. Aucune photo, aucun enregistrement n'a été conservé de cet appel à la poursuite des combats face aux nazis.
Un appel que peu de Français ont entendu au soir du 18 juin 1940. C'était la débâcle, l'exode sur les routes.
Yves Meyer avait 16 ans lorsqu'il entend par hasard à la radio les mots du général de Gaulle. Des mots qui l'ont immédiatement convaincu de s'engager dans la résistance. Yves Meyer est aujourd'hui âgé de 96 ans. Lors d'Autriche l'a rencontré pour Europe 1.
Il ne sait plus si c'est dans un hôtel ou dans un bar qu'il a entendu l'appel du général de Gaulle. Mais Yves Meyer se rappelle qu'ils étaient plusieurs autour d'un petit poste de radio à Palavas-les-Flots, où il est alors avec sa famille. Il a 16 ans.
Il fallait continuer à se battre. On a trouvé très bien qu'il y ait quelqu'un qui veuille que la France continue. À l'époque, c'était un général, bon, mais il y en avait des quantités de généraux. Ça n'avait aucune signification. Ce qui comptait, c'était Winston Churchill.
Yves Meyer s'engage immédiatement dans la résistance. Il est arrêté par la Gestapo, réussit plusieurs fois à s'évader, mais il se fait prendre à Rouen en 44, trahi par un agent double qui parlait aussi bien allemand que français et qui l'a piégé lors d'un rendez-vous.
Il y a un Allemand qui m'a rattrapé, qui a ouvert le feu avec sa mitraillette presque à bout portant. J'ai eu le veston traversé et pas une égratignure. Bon, interrogatoire plus que musclé avec baignoire et tout le truc. J'avais la chance d'être un excellent nageur. J'ai peut-être retenu ma respiration plus que d'autres.
Déporté à Dachau en juillet 44, Yves Meyer ne pèse que 32 kilos à son retour 10 mois plus tard. Après-guerre, il crée son entreprise d'imprimerie et restera toute sa vie un fidèle gaulliste.
Témoignage exceptionnel que vous entendrez en intégralité à 6h40 dans la matinale de Mathieu Béliard.
À l'occasion des 80 ans de l'appel du 18 juin, toute la classe politique rend hommage au général de Gaulle.
Marine Le Pen s'est rendue dès hier sur l'île de Sein, où tout ne s'est pas passé comme prévu. Reportage à suivre dans le journal de 5h30. Le siège parisien des Républicains affiche sur sa façade un portrait du général. Quant à Emmanuel Macron, sa journée s'annonce particulièrement chargée en séquence et en symbole. Jean-Rémy Baudeau.
Trois étapes pour une journée autour de la figure du général de Gaulle. Dans la matinée, Emmanuel Macron se rendra au musée de l'Ordre de la Libération, puis aux traditionnelles commémorations du Mont Valérien, au mémorial de la France combattante. Mais le point fort de la journée du président sera outre-Manche. Malgré les restrictions sanitaires, Emmanuel Macron passera l'après-midi à Londres, capitale de la France libre, rappelle l'Élysée. Premier déplacement à l'étranger pour le président depuis la crise du Covid. Cette journée sera faite de cérémonies et d'échanges bilatéraux avec le prince Charles et le Premier ministre Boris Johnson. Parmi les symboles, Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à la ville de Londres. Il y prendra aussi la parole. À l'heure où le passé de la France et de ses figures historiques sont parfois remis en cause, Emmanuel Macron devrait rappeler aujourd'hui que le général de Gaulle est pour lui, comme l'explique l'un de ses proches, un exemple.
Europe 1, il est 5h04.
Et en ce jeudi matin, de nombreux parents se posent peut-être cette question. Vais-je pouvoir déposer lundi mon tout petit à la crèche ?
Christelle Dubos, le secrétaire d'État en charge du dossier, est catégorique. Selon elle, dès lundi, tous les enfants de moins de 3 ans pourront y retourner.
Pas si simple, répondent les puéricultrices rencontrées par Jeanne Bergaoui. Elles attendent toujours qu'on leur communique le nouveau protocole sanitaire à mettre en place.
Les jeux qui sont portés à la bouche sont lavés systématiquement une fois par jour en temps normal. Aujourd'hui, tout est lavé deux fois par jour.
Les jouets ou les sols devront être désinfectés au minimum matin et soir. Anne-Sophie Fall sait aussi que les professionnels n'auront plus à porter le masque en présence des enfants. Mais cette coordinatrice de 11 structures parisiennes attend le protocole définitif.
Plus vite on va être au courant, plus vite on va pouvoir organiser les choses et meilleur sera l'accueil des enfants lundi.
Jusqu'ici, cette crèche associative n'accueillait que 10 enfants avec un roulement à 3 maximum pour les repas. Si tous reviennent, il va falloir repenser toute l'organisation, soulève Kelly Pelé, l'une des puéricultrices.
C'est la grande question, à savoir si pour les repas et le dortoir, il faudra garder les 1 mètre ou pas. C'est très flou.
Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'infos.
Avant le confinement, Thomas emmenait Nino chaque jour à la crèche. Mais la semaine prochaine, son fils n'ira que 2 après-midi, regrette ce jeune papa.
Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir un peu plus de jours, mais ça n'a pas l'air d'être si simple.
Cette crèche municipale prévoit un accueil encore partiel jusque mi-juillet. Alors pour suivre son activité professionnelle, Thomas a dû solliciter à nouveau l'aide des grands-parents.
Le versement des primes Covid déchire le CHU de Toulouse.
5 des 42 directeurs de l'hôpital vont toucher la prime de 1500 euros. Une décision assumée par la direction, mais qui met en colère les syndicats, alors que 60% des soignants du CHU ne toucheront que la prime réduite de 500 euros. Benjamin Péter.
Sachant qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tout le monde, de privilégier les plus hauts salaires dans les administratifs, c'est absolument scandaleux.
Parce que si dans les départements qui ont été un moment ou un autre en zone rouge, tout le monde va toucher 1500 euros, ici en zone verte, seuls 40% des personnels peuvent toucher ce montant selon le décret. Les autres n'auront que 500 euros. Il a donc fallu faire des choix. Mais Julien Terrier de la CGT n'imaginait pas que ces gros salaires en bénéficient.
La question financière, elle est hyper sensible ici. On a des collègues qui ont des découverts tous les mois, qui dorment dans leur bagnole. C'est indécent.
Mais Marc Penot, le directeur général, assume. Pour lui, ces 5 cadres ne représentent que 0,1% de ceux qui toucheront 1500 euros, des directeurs qui ont particulièrement mouillé la chemise.
Les personnes qui sont distinguées ont été extrêmement disponibles, nuit et jour, tous les week-ends. C'est un travail énorme que de transformer un hôpital en un hôpital capable de multiplier par deux son activité de réanimation dédiée au Covid et de créer des unités Covid.
Et il a d'ailleurs rédigé un courrier que les salariés recevront avec leur feuille de paye du mois de juin pour expliquer les arbitrages et les critères qui ont été pris en compte. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Selon plusieurs médias, Air France prévoit un plan social d'envergure dont les contours seront précisés début juillet.
Près de 8000 suppressions de postes, soit 15 à 20% des effectifs. Pour l'instant, la direction refuse de confirmer.
Autre entreprise touchée par la crise, TUI France, restructuration massive au sein du premier opérateur touristique de l'Hexagone.
Dont vous connaissez sûrement les marques, Marmara, Lukea ou encore Circuit Nouvelle Frontière. Le groupe qui compte un peu plus de 900 salariés veut supprimer jusqu'à 2 postes sur 3 et se séparer de toutes ces agences de voyage, un choc qu'a encore du mal à réaliser cette salariée de TUI France.
C'est le choc. On est tous abasourdis parce que voilà, on ne s'attendait pas à un tel plan social, telle envergure, aussi fort, aussi dur. Tout le monde est impacté et c'est vrai qu'on est surpris. On ne pensait pas que ça serait aussi tôt, sachant que quand même on nous a communiqué des informations comme quoi il fallait se battre, que ça allait aller, on allait remonter la pente. Puis on se rend compte qu'on nous laisse tomber alors qu'on nous parlait de solidarité. C'est vraiment le coup de massue. Nos clients sont là, la demande est là, les gens recommencent à réserver, à se projeter. Donc c'est vraiment dommage maintenant de tout arrêter. Enfin, on ne comprend pas. En fait, on ne comprend vraiment pas cette décision-là maintenant, à cet instant.
Témoignage recueilli par Élise Dangean pour Europe 1.
Est-ce la fin de l'affaire Maddy McCann ? La police allemande dit avoir des preuves que la jeune Britannique disparue en 2007 au Portugal est morte.
Il y a 2 semaines, la police allemande annonçait avoir un suspect, un homme d'une 40aine d'années, déjà en prison, entre autres pour des affaires de pédophilie. Depuis, l'enquête a considérablement progressé. Hélène Cole.
Le procureur parle de preuves solides et concrètes qui corroborent les soupçons des enquêteurs. Il y a 2 semaines encore, le président de la police criminelle fédérale reconnaissait qu'il avait un faisceau d'évidence, mais qu'il lui manquait l'indice ultime pour confondre le suspect. Et c'est pour cela qu'il avait lancé un appel à témoins à la télévision. Il semble que cela a bel et bien fait avancer l'enquête. D'après plusieurs médias, certains éléments datant d'une perquisition de 2016 en Allemagne pourraient avoir livré de nouvelles informations. À l'époque, la police recherchait une autre petite fille, et dans le mobilhome du suspect, elle avait trouvé des maillots de bain d'enfants. Il y avait aussi 8000 photos et vidéos pédopornographiques sur des clés USB enterrées dans le terrain. Depuis 2 semaines, ses anciens voisins, ses anciennes petites amies parlent également des récits glaçants dans lesquels la police a peut-être identifié l'indice confondant. Dans le journal Bild, une de ses collègues raconte comme il se serait mis en colère quand elle lui avait parlé de l'affaire Maddy. « La gosse est morte », aurait-il crié. « C'est si facile de faire disparaître un corps. Les cochons mangent de la chair humaine. » Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Il est 5h09 et c'est la semaine de l'énergie durable. Ce matin, on va s'intéresser au parc d'éoliennes en mer.
Pour l'instant, il n'y en a pas, mais 4 projets sont lancés en France. Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire, c'est le chantier le plus avancé. D'ici 2022, ce parc produira l'équivalent de 20% de la consommation d'électricité de Loire-Atlantique. Le reportage sur place de Virginie Salmen.
Un parc de 80 éoliennes dispersées à l'horizon, à 12 km de la côte, quasi invisible, jure François Casse des chantiers de l'Atlantique.
On pourra l'apercevoir, mais uniquement les jours de très beau temps, de la plage de la Boule. Mais les éoliennes auront la taille d'une tête d'épingle pour les riverains.
Et pourtant, ce sont des engins bien plus grands que les éoliennes terrestres, plus de 200 mètres de haut, l'envergure de 2 Airbus A380. Ça fait 10 ans que le projet a été lancé et il va falloir encore 2 ans pour planter ces éoliennes en pleine mer.
Comment ça tient une éolienne en mer ?
Frédéric Grisot, patron de la branche énergie marine.
Elle est clouée au fond de la mer. On commence par percer un trou et ensuite on vient y poser un tube d'acier de 80 mètres de long et on vient cimenter pour que ce pieu tienne au fond de la mer.
Et avec quoi on creuse des trous aussi énormes ?
Ce sont les grosses machines avec lesquelles aujourd'hui on forme les tunnels pour le métro du Grand Paris. Ce sont les mêmes machines qui font 8 mètres de diamètre mais qu'on pose verticalement au fond de l'eau.
L'essentiel des oppositions est venu des pêcheurs. EDF les a emmenés voir ce qui se fait au Royaume-Uni, au Danemark. Je ne vais pas vous dire qu'on est ravis qu'il y ait des éoliennes, me dit le patron du comité des pêches, mais on a obtenu des compensations.
On passe au sport. En tennis, un calendrier de reprise a été dévoilé hier. Après 4 mois d'arrêt, le circuit professionnel reprendra en août. Et cette fois, c'est sûr.
Sûr. Également, comme les dates que nous vous annoncions, pour Roland-Garros, les internationaux de France auront lieu du 27 septembre au 11 octobre.
Un tournoi parisien qui n'est pas envisagé à huis clos comme l'est l'US Open. Alors pour le moment, aucune jauge pour le public n'est annoncée, mais la billetterie devrait être lancée très prochainement. On touche du bois, nous explique Guy Forget, le patron de Roland-Garros.
Les choses vont plutôt dans le bon sens, nous sommes optimistes. Si jamais il se passe des choses
un petit peu plus délicate, on avisera. Tout comme pour l'option du huis clos, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas une option que nous privilégions, bien entendu, ni pour les fans, ni pour les joueurs. Voilà, mais on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Donc voilà, on est optimiste, mais on reste prudent. On a aujourd'hui la particularité d'avoir 75 joueurs du top 100 qui sont européens. La plupart d'entre eux sont en Europe en ce moment. On sait qu'ils veulent jouer sur terre battue. Bien sûr, Roland-Garros et les deux tournois très importants qui vont se dérouler avant notre tournoi. Donc c'est chouette d'avoir pris cette date pour justement sauver notre saison sur terre battue. Et aujourd'hui, je sais que l'ensemble des joueurs européens, en particulier français, sont très séduits à l'idée de jouer justement notre tournoi à cette époque de l'année sur terre battue.
Guy Forget, le patron de Roland-Garros, joint par Corinne Boulou. Roland-Garros, dont nous sommes fiers ici à Europe 1 d'être la radio partenaire.
Il est 5h12.
On passe aux courses hippiques avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de la Teste et mon pari gagnant sera le 601 Pradaro. Récent bon troisième d'un quintet à Vichy qui réunissait une opposition d'un niveau plus relevé que celle de cet après-midi, ce pur sang régulier et expérimenté devrait pouvoir mettre à profit sa parfaite condition physique actuelle pour renouer avec la victoire, d'autant plus qu'il aura l'avantage d'évoluer chez lui sur une piste où il s'entraîne chaque matin. Notez bien, pour cet après-midi à la Teste, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 1, Pradaro.
Merci Thierry Léger. À tout à l'heure dans une demi-heure pour vos pronostics du quintet. Europe 1. Restez avec nous dans moins d'une minute, on va vous raconter trois histoires, trois articles qui nous ont interpellés dans vos journaux ce matin. Très bon réveil à tous.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
5h14, l'heure d'ouvrir le pressing, les articles les plus insolites de la presse racontés sans se presser par mes deux acolytes, Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour.
Ça va ?
En pleine forme.
Bon, eh bien on va commencer avec vous.
Ah ben j'ai de la chance. On vous en parle sur Europe 1 depuis quelques semaines maintenant. La tension entre les forces de l'ordre et leur ministre de tutelle Christophe Castaner est au plus haut. Le Huffington Post nous raconte ce matin que les fonctionnaires de police préfèrent ironiser sur leur situation avec des petits événements plutôt étonnants. Par exemple, le syndicat Alternative a publié sur son compte Twitter un nouvel écusson de police, tout rose avec licorne et arc-en-ciel, parfait pour les forces de l'ordre dans un monde magique, comme se moque le logo qui y est inscrit. La police bisounours, conclut même le secrétaire général du syndicat. Il y a deux jours, cette fois, c'est dans la rue que les policiers sont allés sensibiliser les Français. À Saint-Denis, ils ont par exemple distribué des bonbons à la population devançant plusieurs véhicules décorés de ballons colorés.
Plutôt étonnant.
Et là encore, les bisounours sont à une. La musique des bisounours qui était à fond sur la sono des policiers. Un peu plus tôt, c'était le week-end dernier à Roubaix.
Ah bah oui.
Il y a une thématique, hein. La musique enfantine du générique des bisounours et un attroupement d'enfants aux anges. Cette scène aurait pu être celle du passage du glacier au cœur de l'été. Non, ce sont des policiers adhérents au syndicat Unité SGP Police qui ont distribué des glaces et des sucettes aux enfants, donc sur le son du générique des bisounours.
Cet après-midi, on s'est dit que pourquoi pas aller distribuer des glaces au parc d'Arbieux. Et je pense que c'est une opération réussie puisqu'on a eu plein de monde. Il y a plein de gens qui sont venus nous parler, ils étaient très contents. Donc je pense que c'est quelque chose qui est fort et puis on continue, vu que notre ministre ne nous répond pas favorablement, on lui fait voir qu'on va travailler différemment aujourd'hui.
Voilà, moins exposé que les manifestations devant les commissariats ou sur les grandes places parisiennes, les opérations bisounours des policiers, c'est à lire sur le Huffington Post.
Ouais, c'est plutôt étonnant, rigolo. En tout cas, c'est l'ironie est maniée avec doigté et délicatesse. Merci beaucoup, Paul Lassen. Omblin Roche.
On peut difficilement les voir de la rue, depuis la rue, ces hommes harnachés comme dans un film de science-fiction qui progressent au cœur du monstre d'acier fondu de Notre-Dame de Paris. Les équilibristes démontent depuis le 8 juin l'échafaudage de la flèche de la cathédrale.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris.
Un échafaudage déformé par la chaleur après l'incendie d'avril 2019. Le magazine Paris Match est allé les observer de près. Des cordistes qui évoluent dans cette structure instable, friable, à 40 mètres de haut. Cet échafaudage de 250 tonnes a bravé les flammes et aujourd'hui, 40 000 pièces sont à découper. Alors, rencontre avec ces courageux cordistes du groupe Jarnet, des forces spéciales dépêchées par Europe Échafaudage, un bataillon de funambules habitué à se suspendre au plus beau monument de France. Alors, rappelez-vous, ce sont eux, en 2003, qui ont déployé 27 km de câbles pour habiller de lumière la Tour Eiffel. Mmh. Ils ont camouflé les travaux de rénovation de Versailles, du Panthéon, de Matignon, Notre-Dame de Paris et pour ses écureuils. Une mission inédite, équipée de casques, de cordes, de baudriers, de mousquetons, de masques. Pour ne pas respirer les poussières de plomb, ils sont guidés par un conducteur de travaux et lui seul sait quel bout de tôle fondue, quel tube d'acier doit être sectionné sans risque. Alors pour démanteler ce puzzle infernal, il faut savoir garder la tête froide. Autant vous dire que la tâche est périlleuse, l'environnement est instable, hostile. Et l'objectif premier, c'est que tout le monde rentre à la maison une fois le boulot terminé. On sauve les hommes d'abord. Avant de faire appel à ces cordistes surentraînés pour sécuriser les entrailles de Notre-Dame de Paris, les premières entreprises ont recruté des alpinistes.
Sécurés.
Oui, comment ?
Sécurisés.
J'ai dit sécurisés ? Pour
mais
sécuriser.
C'est, mais c'est à propos, en parlant de Notre-Dame.
Donc ils ont recruté, pour sécuriser les entrailles de la cathédrale, des alpinistes, des guides de haute montagne, des spéléologues également. Alors dommage qu'il faille attendre un drame pour susciter des vocations. Depuis un an, les CV affluent pour devenir... Ah oui. Cordiste. Et pour certains, c'est même une reconversion comme ce soldat qui a servi au Kosovo, au Gabon, en Afghanistan et au Mali. Voilà les funambules de Notre-Dame de Paris dans Paris Match avec plein de photos. C'est en kiosque dès aujourd'hui.
En tout cas, ils n'auront pas mon CV. Hein. Je serais incapable de faire un travail pareil.
Je pense que vous n'êtes pas le seul.
Non, mais j'ai un vertige. Si je montais sur la table, là, je pense que j'aurais déjà le vertige. Mais alors, non, monter pas... à 40 mètres de haut, ce n'est pas possible.
Non, mais en plus, il faut monter, puis il faut déambuler dans les câbles.
Et puis, il faut imaginer le vent, tout ça. Enfin, ça rajoute...
Oh, eh ben, on les
j'en ai la chair de poule. Merci.
Après, il faut redescendre.
En plus.
Oui, c'est mieux. merci beaucoup, Amblin Roche. J'ai choisi pour ma part un article de Science et Avenir, article qui nous raconte les pouvoirs insoupçonnés des bulles de savon.
Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins.
Alors je suis sûr que comme moi, vous adoriez, enfant, souffler de toutes vos forces pour en faire des énormes de bulles, puis les éclater. C'était rigolo, sauf quand on renversait le tube et qu'on s'en mettait partout. Maman, si tu m'écoutes, merci pour ta patience. Eh bien sachez que désormais, les bulles de savon, ça peut servir à autre chose que d'amuser les bambins. C'est même en passe de devenir un formidable outil pour compenser le déclin dramatique des abeilles. Un scientifique japonais essaye depuis plusieurs années déjà de mettre au point des robots pollinisateurs. Des drones, comme vous pouvez l'entendre, qui déposent des grains de pollen dans les fleurs des arbres fruitiers. Échec total. Les drones écrasent systématiquement les fleurs quand ils ne les broient pas dans leurs hélices. Après plusieurs années de tests infructueux, le chercheur est dans une impasse. Il décide donc de mettre son projet de côté et de prendre du bon temps avec son fils de 3 ans. Et c'est là, dans un parc au Japon, à proximité d'un bac à sable, Keijiro Miyako, c'est son nom, a une révélation. Il voit les bulles de savon soufflées par son fils se poser délicatement sur des fleurs. Le scientifique fonce alors, enfant sous le bras, en direction de son laboratoire. Il analyse au microscope une bulle de savon avec quelques grains de pollen saupoudrés dessus. Banco, la bulle résiste mieux, elle continue de flotter dans l'air. Et si elle était là, la solution pour compenser le déclin des abeilles. Miyako lance alors un test de grande ampleur. À l'aide d'une machine, il projette des milliers de bulles chargées de pollen au-dessus d'un verger de poirier. Résultat, 95% des fleurs ciblées ont donné quelques semaines plus tard des fruits. Ça marche. Le chercheur japonais a ensuite peaufiné sa méthode. Il a équipé un drone d'une machine à bulles, une machine potentiellement révolutionnaire, capable de polliniser artificiellement des dizaines d'hectares en seulement quelques heures. L'engin pourrait très prochainement être commercialisé. Et bonne nouvelle pour les fleurs, à l'exception des bulles qu'il projette, l'engin fait le même bruit que les abeilles.
C'est vrai. J'espère qu'on va sauver d'abord les abeilles. Hein.
Ce serait mieux.
Oui.
Ce serait bien mieux. D'autant que les abeilles nous donnent un formidable miel.
Oui.
Voilà. Et ben voilà, hein, je crois qu'on va conclure le pressing sur cette...
Jean-Michel, pas de suite non plus.
Oui, absolument. Oui. Après Paul, Juju. Merci Paul Lassen. Merci. Dans un instant, c'est les doigts dans l'assiette. On va aller dans l'Oise, retrouver Luc, notre agriculteur, très inquiet pour la culture du lin.
Il sortira son nouvel album demain dans Frenchie. Celui qui s'est mis à la guitare à l'âge de 17 ans reprend des grands standards jazz, mais pas seulement. Thomas Dutronc avec Plus je t'embrasse sur Europe 1.
t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser.
Sait faire. Il sera cet après-midi dans l'équipe sauvage, invité de Mathieu Noël entre 16h et 18h. Thomas Dutronc, plus je t'embrasse, extrait de son album qui s'appelle Frenchie et qui sera disponible dès demain. 5h24, les doigts dans l'assiette sur Europe 1, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Luc Smessa.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin, Luc. Je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent bien désormais que vous êtes polyculteur éleveur dans l'Oise, à Roy-Boissy, très exactement. Comment allez-vous ?
Bah, ça va bien. On est en pleine période d'attente des moissons. Avec ce temps-là, on va démarrer les moissons d'ici 8 jours. Et puis, on va bientôt aussi arracher notre lin textile.
Justement, vous vouliez nous parler du lin dont la culture est frappée de plein fouet par la crise du Covid-19. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ah, exactement. C'est une belle plante qui fleurit là depuis 8-10 jours, toute bleue. On dirait des mers de lin. C'est une plante qui est touchée par le Covid puisque c'est essentiellement pour faire de la fibre, hein, donc du tissu. Avec ça, on fait du linge de maison, on fait surtout des chemises, on fait plutôt du haut de gamme.
Très agréable à porter, d'ailleurs.
Et il n'y a pas besoin de le repasser. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est à l'arrêt. Toutes les commerces de haut textile, aujourd'hui, n'achètent plus. Mmh. Et donc, la crise est forte. Et en même temps, on produit, il faut savoir que la France, Cocorico, on est champion du monde de la production de lin. Et en plus, notre lin est recherché.
La Normandie particulièrement, c'est la région...
C'est ça, la Normandie, les côtes, la côte Picarde, la côte des Hauts-de-France, puisque le lin, pour sa particularité, c'est une plante qui pousse très vite, elle pousse en 100 jours, on la sème fin mars, on l'arrache en ce moment.
Et qu'à l'avantage, de pas avoir besoin de beaucoup d'engrais ni de pesticides, c'est une plante très coriace.
On pourrait même dire que c'est une plante agroécologique, c'est une plante qui n'a pas besoin d'azote pour pousser. C'est une plante qui justement fait très bon précédent pour le blé derrière. Et c'est une plante où on dit un peu comme en élevage pour le cochon, dans le lin tout est bon. On se sert de tout dans le lin. La graine, elle va servir à faire de l'huile ou à faire de l'alimentation pour les animaux, très riche en oméga 3. Bien sûr, on a la fibre. Et tout ce qu'il y a autour, la paille, va servir pour notre cas, en tout cas dans notre coopérative. C'est une unité de chaleur. Avec un circuit de chaleur qui va chauffer l'ensemble de la ville. Donc c'est une plante intéressante, mais en ce moment il va falloir qu'on revienne à la souveraineté, c'est-à-dire produire chez nous, parce qu'on produit chez nous, mais le problème c'est que derrière les usines de filature sont à 85% en Chine. Oui. Il en reste une en France, en Seine-Maritime. Il faudrait peut-être que davantage on soit, pour être moins dépendant, être capable de produire chez nous, puis créer de l'emploi en amont et en aval de cette belle filière qui est le lin.
C'est vrai que ça paraît aberrant au temps du réchauffement climatique de produire tant de lin que l'on envoie en Asie et qui nous revient sous forme de textile, sous forme de draps et autres chemises. Il faudrait donc relocaliser en partie ces filatures. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, vous qui produisez un petit peu de lin, vous avez des ballots qui sont en train de s'empiler dans vos granges?
Alors, on a notre récolte 2019 qui est encore dans notre hangar. Elle risque de rester au moins jusqu'à l'année prochaine. Et puis,
les prix vont s'effondrer.
Les prix sont en train de chuter. Et surtout, c'est qu'on nous demande pour l'année prochaine de produire moitié moins de cette production. Donc, c'est clair qu'il est temps de rebooster tout ça et de se dire que derrière, justement, toutes ces usines qu'on serait capable d'avoir chez nous, ça pourrait être de l'emploi, de la valeur ajoutée et bien sûr des ressources pour notre État également.
Merci beaucoup, Lux Messard, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. J'espère que votre message sera entendu, celui de la relocalisation de la filière du lin et que les producteurs comme vous vont surmonter cette crise. Prenez soin de vous et à très bientôt dans les biens dans l'assiette. Mon cher général Cabrol, allez-vous enfin faire taire les hostilités climatiques?
Oh là là, quelle métaphore. Bah écoutez, oui et non. Oui, parce que d'aujourd'hui quand même, le temps sera beaucoup moins agité et beaucoup moins ponctué d'orages qu'il ne le fut hier et avant-hier. Mais nous aurons encore averses, orages et gros nuages sur les régions qui bordent la Manche, sur la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le Massif Central, le Centre. Le massif des Pyrénées, le massif alpin, vous voyez que ça fait quand même pas mal de régions où le temps sera agité et encore légèrement pluvieux. Je dis légèrement parce que les averses n'éclatent pas partout. Et puis des secteurs où les averses vont disparaître pour laisser place aux éclaircies. Les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la vallée du Rhône, le bassin méditerranéen. Enfin, des régions où les éclaircies seront présentes et timides, Aquitaine, Midi-Pyrénées. À Paris, pas mal dans la journée, un petit risque de pluie dans l'après-midi et la soirée surtout. Les températures maximales, 18 à Rennes, 19 à Caen, 20 degrés à Belfort, 21 à Toulouse, 22 à Paris, 24 à Lyon, 25 à Marseille. Mais à la fin de la semaine, mes amis, que ça va être, attention, vous allez voir un temps d'été. Allez.
Ah, merci beaucoup. Magnifique. Laurent Cabrol pour cet appel de la météo. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il est 5h30 sur Europe 1.
Ça va nous permettre de remettre en service des salles de réunion sur lesquelles on avait limité l'accès.
Le gouvernement va alléger les règles sanitaires en entreprise. Selon les informations d'Europe 1, la nouvelle consigne, ce sera un mètre de distance entre chaque salarié. Allègement en vue aussi dans les écoles et les collèges pour permettre le retour de tous les enfants en classe lundi. En maternelle, plus de distanciation obligatoire. Dans ce journal, la visite mouvementée de Marine Le Pen sur l'île de Sein pour célébrer l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Reportage à suivre de François Coulon. Et puis un conseil: lisez bien les étiquettes au supermarché. Plus il y a d'ingrédients, moins c'est bon pour la santé.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il n'y a pas que les écoles qui vont alléger leur protocole sanitaire, ce sera bientôt le tour des entreprises.
Oui, depuis le début de la semaine, l'attestation de déplacement aux heures de pointe dans les transports en commun n'est déjà plus obligatoire. Mais selon vos informations, Carole Ferry, la fin des 4 mètres carrés par salarié n'est plus qu'une question de jour.
La nouvelle règle qui se profile, c'est un mètre de distance entre chaque salarié. Elle doit encore être validée par les autorités sanitaires. Il n'y aura désormais plus qu'un seul protocole. Il remplacera les 80 guides et fiches métiers établis en plein confinement. Des protocoles très stricts qui pèsent en moyenne à 20% sur la productivité des entreprises. Certains patrons m'ont d'ailleurs avoué que tout n'était plus vraiment respecté à la lettre. Pour les plus rigoureux, cela va permettre de faire revenir plus de salariés dans l'entreprise ou de retrouver une certaine normalité, selon Alain Dulac. Il dirige la société Factem, spécialisée dans l'électroacoustique en Normandie.
Ça va nous permettre de remettre en service des salles de réunion sur lesquelles on avait limité l'accès. On avait imposé des sens de circulation qui étaient très stricts. Là, on va pouvoir relâcher. Le nettoyage des outils, on avait des nettoyages deux fois par jour. On va alléger cette mesure. Également, la mise à disposition de nouveau de fontaines à eau, distributeurs de café, choses comme ça.
Beaucoup prévoient toutefois de garder quelques nouvelles habitudes. La distribution de gel hydroalcoolique, par exemple, les horaires décalés, les roulements plus nombreux à la cantine ou encore le port du masque quand on doit travailler de manière rapprochée.
Les informations de Carole Ferry.
Pour les établissements scolaires, le protocole sanitaire a été dévoilé hier soir. Fini les règles de distanciation en maternelle à partir de lundi.
Et elles deviennent plus souples en élémentaire et au collège. Les précisions de Victor Dolande.
Les études épidémiologiques sur la contamination des enfants sont très rassurantes. Le ministère de l'Éducation nationale a donc tranché, fini la distanciation sociale entre les enfants en maternelle. Une très bonne nouvelle pour Aurélia, dont la fille est en grande section.
Cette reprise de l'école à 100% est vraiment une super nouvelle. Je l'attendais avec impatience. Et puis ma fille dire au revoir à sa maîtresse normalement et finir une année sereine.
À l'école élémentaire, la règle reste le mètre de distance latérale entre les élèves. Mais si ce n'est pas tenable, les écoles devront s'adapter. Autrement dit, le gouvernement assume cette absence de distance. Marie va remettre ses deux enfants en classe dès lundi. Même pour deux semaines, dit-elle, c'est essentiel.
Symboliquement, oui, qu'ils terminent l'année dans leur école, ça me paraissait vraiment important. De se dire que tout ça était temporaire, que la norme, ce n'est pas de se tenir à distance les uns des autres. C'est important maintenant de reprendre une vie normale, entre guillemets.
Quant au collège, si la distance d'un mètre n'est pas possible, alors le port du masque sera obligatoire pour tous les collégiens.
Victor Dolande. Les violences de la horde sauvage ne resteront pas impunies. Déclaration de Christophe Castaner à propos des affrontements de Dijon qui ont commencé le week-end dernier. Le ministre de l'Intérieur a demandé à la police d'identifier les auteurs des exactions.
Marine Le Pen sur tous les fronts. Conférence de presse à Dijon il y a deux jours et hier, visite impromptue sur l'île de Sein.
La présidente du Rassemblement National est arrivée dès hier après-midi pour prendre de court ses détracteurs et rendre hommage au général de Gaulle pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Elle a quand même eu droit à un comité d'accueil pas franchement amical. Récit d'un fiasco avec François Coulon.
Elle redoutait d'être bloquée ce matin au port d'Audierne par des opposants. Alors Marine Le Pen a devancé l'appel et débarqué sur l'île dès hier en canot pneumatique et en catimini. Bref discours devant la croix de Lorraine avant de repartir sous les huées.
C'est une honte, Madame Le Pen.
La honte, la honte.
Des habitants de l'île de Sein piétinent la gerbe de fleurs déposée par la présidente du Rassemblement national. 20h30, conférence de presse sur le continent.
Lorsque l'on est contraint de changer ses plans au dernier moment parce qu'on est confronté à des actes de violence, il en est de la responsabilité de ces milices d'extrême gauche qui maintenant, de manière systématique, empêchent la démocratie de fonctionner.
Dehors, les frondeurs ne désarment pas.
Les fachos dehors ! Les fachos !
Qu'ils ont craché depuis toujours sur De Gaulle et maintenant ils voudraient récupérer l'héritage.
Ce qu'on devrait célébrer aujourd'hui, c'est la mémoire des résistants. Des gens comme elle, ils les ont assassinés, les résistants, pendant la guerre.
Marine Le Pen aura loupé son coup de com'. Audierne, François Coulon, Europe.
Emmanuel Macron célébrera l'anniversaire du 18 juin, d'abord au mémorial du Mont-Valérien, puis à Londres. Ce sera sa première visite à l'étranger depuis la crise du Covid.
Il va rencontrer le prince Charles, puis le premier ministre Boris Johnson. D'ailleurs, le Royaume-Uni va décorer les quatre derniers compagnons de la Libération encore en vie. Ils ont entre 98 et 100 ans. Edgar Tupé-Thomé, Daniel Cordier, Hubert Germain et Pierre Simonet.
Europe 1, il est 5h35.
Manger sans s'empoisonner, c'est le titre du numéro hors série que publient 60 millions de consommateurs aujourd'hui. Coup de projecteur sur les risques que des aliments industriels ultra transformés qui envahissent nos assiettes.
Et oui, pizza, biscuits apéro et autres viennoiseries, ils représentent en moyenne plus du tiers de nos apports caloriques et sont néfastes pour notre santé avec des risques de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Comment les repérer dans les rayons des supermarchés? Comment décrypter les étiquettes? Les réponses d'Ève Roger.
Alerte au rayon petit déjeuner. 90% des produits qu'on y trouve sont des aliments ultra transformés, viennoiseries, céréales ou pâtes à tartiner. Et pour en être sûr, il suffit de lire la liste des ingrédients si vous y trouvez des composés qui n'existent pas dans les placards de votre cuisine. Graisse hydrogénée ou amidon modifié par exemple, banco, c'en est un. Deuxième indice, la taille de l'étiquette. Plus il y a d'ingrédients, de préférence au nom obscur, et plus le risque est là. Une barre chocolatée avec plus de 5 composants est un aliment ultra transformé. Autre exemple cité par 60 millions de consommateurs, le fromage à tartiner le paysan breton, dont la recette ne contient que du lait et du sel de Guérande, vaut mieux que le kiri qui compte 9 composants, dont un gélifiant et des sels de fonte. Enfin, ce n'est pas écrit sur l'étiquette, mais le procédé de fabrication industrielle est aussi un marqueur. L'aliment ultra transformé est souvent craquant, croustillant, comme les chips, certaines pizzas ou céréales.
Et autre élément pour vous convaincre, Julien, ceux qui lisent les étiquettes pèsent en moyenne 4 kilos de moins que ceux qui ne les lisent pas.
Moralité, il faut avoir de bons yeux pour être mince.
Voilà. Aux États-Unis, le livre de John Bolton, qui va bientôt sortir, devrait fortement déplaire à Donald Trump. Son ex-conseiller à la sécurité nationale l'accuse d'avoir cherché l'aide de la Chine pour gagner sa réélection en novembre. Et puis, il y a du nouveau en vue sur Twitter dans les semaines qui viennent. Si vous avez un iPhone, vous pourrez enregistrer votre voix, un message jusqu'à 140 secondes.
Vous me trouvez gros, Hélène
Zelani ?
Pas
du tout. Non, absolument pas.
J'ai eu un doute à un moment, là, vu que vous me disiez, pour vous convaincre, Julien.
De lire les étiquettes pour votre santé.
Ah, d'accord. Non, mais parce que moi, je me trouve gros.
Je m'intéresse beaucoup à votre santé.
C'est bien aimable. Merci beaucoup, Hélène Zelani, pour ce journal. On vous retrouve pour l'édition de 7h.
Europe 1, il est 5h38.
Les courses avec les pronostics hippiques du Quintet de Thierry Léger. On va où cet après-midi, Thierry ?
C'est sur l'hippodrome de la Teste, l'une des plus belles pistes du sud-ouest, que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 chevaux au départ de ce handicap, j'ai choisi les numéros 9 Créatives et 7 Virka, indissociables, puisque ces deux juments ont conclu respectivement 3e et 4e d'une épreuve similaire le 25 mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris, et elles n'ont qu'à répéter la valeur affichée ce jour-là pour terminer à coup sûr dans les 5 premiers. L'opposition sera emmenée par Seigneur Charlie, le numéro 12, le doyen de ce quintet, qui du haut de ses 10 ans est toujours aussi performant. Ensuite, méfiez-vous du numéro 6, Chaillou, pour lequel son entraîneur Frédéric Rossi n'effectue certainement pas un aussi long déplacement depuis Marseille sans avoir quelques certitudes. Enfin, les numéros 10, Dicon, 2, Picnic Royal, 4, Pirata Tessora et 14, Ose Bosque compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 7, 12, 6, 10, 2, 4 et 14.
Pronostic à retrouver comme chaque matin sur notre site europe1.fr. Merci Thierry Léger. À demain.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, nous serons en ligne avec l'historien et écrivain Dominique Lormier. C'est aujourd'hui le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Autant vous dire qu'il serait malvenu d'éteindre votre radio. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Julien Pierce.
Il y a tout juste 80 ans, le général de Gaulle lançait depuis Londres son fameux appel du 18 juin, appel à la résistance contre l'occupant nazi. Pour en parler, Julien, votre invité, Dominique Lormier, historien et écrivain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Bonjour Dominique Lormier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Est-ce que vous pourriez nous raconter les quelques heures qui précèdent l'appel du 18 juin ?
Oui, alors le général de Gaulle, le 17 juin, est sur Bordeaux pour proposer à Paul Reynaud une union entre la France et la Grande-Bretagne pour poursuivre la guerre, qui va être rejetée finalement par le maréchal Pétain, parce qu'entre-temps, Paul Reynaud a démissionné, et lorsque de Gaulle arrive à Bordeaux, il apprend donc la démission de Paul Reynaud et la nomination de Pétain en tant que chef du gouvernement. Or, il sait très bien que Pétain lui est tout à fait hostile. Ils se sont bien entendus durant la Première Guerre mondiale, puisque de Gaulle a été sous les ordres de Pétain, mais maintenant ils sont en opposition, puisque Pétain est partisan de l'armistice et de Gaulle est partisan de poursuivre la guerre en Afrique du Nord.
Voilà pourquoi le général de Gaulle prend un avion direction Londres. Les Britanniques y réagissent comment en voyant débarquer ce général français quasi inconnu qui demande d'emblée à se rendre à la BBC ?
Il l'accueille favorablement parce que Churchill l'a déjà sondé, il l'a rencontré plusieurs fois durant le mois de juin. Il est au courant également de ses faits d'armes durant la campagne de mai-juin 40. Donc il est accueilli, je dirais, d'une manière favorable par Churchill.
Et la suite, on la connaît, hein. Le général de Gaulle écrit son discours dans la journée du 18 juin et le prononce le soir au micro de la BBC. Quels sont encore aujourd'hui, 80 ans après, les mythes et légendes encore tenaces de cet appel du 18 juin ?
Oui, alors les mythes, c'est qu'on veut nous faire croire que tous les Français auront entendu l'appel du 18 juin. Or, à ce moment-là, la majorité des Français se trouvent sur les routes de l'Exode. Donc c'est un appel qui est un peu tombé dans le vide, mais qui néanmoins est rentré dans le domaine historique comme un appel à la résistance.
Il n'y a pas eu de photo, pas d'enregistrement de cet appel du 18 juin. Il a été réenregistré quelques jours plus tard.
Tout à fait. Alors, il a quand même été entendu un petit peu en France, puisqu'il y a eu quelques journaux qui en ont fait écho, mais il a été beaucoup moins entendu que l'appel à l'armistice du maréchal Pétain qui avait eu lieu le 17.
Si mes souvenirs sont bons, la première version de l'appel du 18 juin, celle diffusée pour la première fois à 22h, elle a été relue et corrigée par le gouvernement britannique au préalable.
Tout à fait. Le gouvernement britannique ne voulait pas froisser le maréchal Pétain et le futur régime de Vichy. Donc, ils ont repris certains passages parce que le général de Gaulle était assez vindicatif à l'encontre du maréchal Pétain. L'entourage de Churchill avait une très bonne image du maréchal Pétain en tant que vainqueur de Verdun. Il pensait qu'il aurait peut-être la volonté de poursuivre le combat, donc il ne fallait surtout pas le froisser justement à ce moment-là.
Cet appel, on connaît tous aujourd'hui sa portée historique, mais à l'époque, est-ce que ça a été un moment véritablement fondateur ?
C'est devenu un appel, je dirais, un élément fondateur dans la création de la France libre et de la résistance, parce que c'est vraiment un appel à la poursuite des combats dans un climat, je dirais, de démoralisation généralisée.
Et puis cet appel du 18 juin, il ne vient pas totalement de nulle part. Si De Gaulle lance la résistance à ce moment-là, ce n'est pas pour la beauté du geste, il y croit et il a des raisons d'y croire.
Oui, parce qu'il a une vision mondiale du conflit. Contrairement à Pétain, Pétain pense qu'avec l'armée française battue, la guerre est terminée et l'Angleterre va céder rapidement. Or, le général de Gaulle a une vision, je dirais, mondiale du conflit, panoramique, stratégique. C'est-à-dire, il comprend très vite que la guerre va se poursuivre, puisque la Grande-Bretagne a le premier empire colonial et la France a le deuxième empire colonial. Donc, il y a une possibilité de poursuivre la guerre ailleurs.
Et puis s'il y croit également, c'est parce que, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, les soldats français n'ont pas été ridicules face aux Allemands, loin de là.
Tout à fait. Il y a eu entre 30 et 50% des chars allemands mis hors de combat en 45 jours de bataille et 50% d'aviation allemande. Ça a été en quelque sorte le premier round de la bataille d'Angleterre, comme ça a été reconnu par Churchill, mais également par le général Guderian.
D'ailleurs, De Gaulle a pris part au combat quelques semaines avant son appel du 18 juin. Il menait une division de blindés.
Oui, il s'est notamment distingué durant l'attaque de Montcornet, où il a quelque peu inquiété, je dirais, les moyens de ravitaillement allemands. Il a récidivé à Crécy-sur-Serre, et puis ensuite à Abbeville, où là, véritablement, il a mené une bataille assez dure, où vous avez eu une division barbaroise qui a subi de très lourdes pertes contre la division blindée du général de Gaulle.
Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'à l'époque, la plupart des blindés français n'étaient pas équipés de radio. Donc, pour coordonner tout ça, le général de Gaulle se devait d'être au cœur de la bataille.
Il était au cœur du terrain. Il circulait en sidecar ou en véhicule pour donner les ordres. Néanmoins, il y avait des chars lourds comme le B1 bis qui était un char puissant et qui a, je dirais, semé parfois la terreur dans les rangs des troupes allemandes.
Il a été un bon général avant de s'envoler pour l'Angleterre. Il était apprécié de ses soldats.
Il s'est distingué quand même dans trois contre-attaques qui ont inquiété le haut commandement allemand. D'ailleurs, le Guderian y fait référence dans ses souvenirs de guerre. Donc, on peut penser que réellement, il y a eu, je dirais, une volonté de combat du côté de De Gaulle.
Revenons à aujourd'hui. Est-ce que vous observez des réminiscences de cet appel du 18 juin dans certains discours de nos responsables politiques ?
Vous avez beaucoup de gens qui se disent être dans l'héritage du général de Gaulle. Le général de Gaulle est devenu très à la mode aujourd'hui, de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen. Donc véritablement, on peut dire qu'il a marqué les esprits, y compris les esprits politiques.
Oui, aujourd'hui, tout le monde se revendique un peu du général de Gaulle. Qu'en est-il des discours ? Notamment quand on entend le président Macron nous dire « Nous sommes en guerre contre l'épidémie de coronavirus, le combat ne fait que commencer ». On a l'impression un peu d'entendre l'appel du 18 juin, là.
Oui, mais là, je dirais qu'il y a une hystérisation de la situation. On n'est pas du tout dans la situation de mai-juin 40. Donc, il y a, je dirais, une volonté politique, certainement, derrière tout ça, de communication politique, pour dramatiser la situation qui n'a rien à voir avec la situation que l'on a connue en mai-juin 40.
Elle était bien plus critique en mai-juin 40, c'est ce que vous voulez nous dire.
Ça n'a rien à voir. De nombreuses îles avaient été détruites et il y avait eu 10 000 morts du côté civil et 60 000 soldats français tués, plus de très nombreux blessés et le pays allait être occupé par les Allemands. Donc on n'était pas du tout dans la même situation que celle du Covid que l'on a connue.
Merci Dominique Lormier de nous avoir éclairé sur cet appel du 18 juin dont nous fêtons, célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire. Je rappelle que vous êtes historien et écrivain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Je donne les titres de vos deux derniers livres qui viennent de sortir. De Gaulle, intime et méconnu, c'est aux éditions Alizio, et Les vérités cachées de la défaite de 1940 aux éditions, cette fois, du Rocher. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Europe 1. Restez avec nous dans un instant, c'est la partition d'Ambline Roche, la très attendue chronique musicale de ce 5-6. Qu'allez-vous nous faire écouter ce matin, Ambline ?
Le pouvoir des fleurs, Julien.
Ça chante, les fleurs, maintenant ?
Pareil.
Il paraît. Bon, à tout de suite.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
5h48 et 30 secondes, c'est l'heure de la partition d'Ambline Roche. Partition ce matin, Ambline, avec une fleur dans les cheveux, vous nous plongez dans l'atmosphère californienne et torride du festival pop de Monterey. Premier événement musical à incarner les idées hippies contre culture naissante aux États-Unis. Monterey, avec son affiche de rêve, se tient les 16, 17 et 18 juin 1967. Un Woodstock avant l'heure, Ambline.
We'd like to sing a song that was based upon this very great land in which we are now sitting and squatting upon.
All the leaves are brown, all the leaves are brown, and the sky is gray.
Le lancement du Summer of Love, Julien, l'événement majeur de la période hippie, Monterey, ce petit port de pêche de la côte pacifique, à 150 km au sud de San Francisco, voit déferler des dizaines de milliers de jeunes aux cheveux longs, débraillés, poitrine à l'air, libres. En rupture avec les valeurs parentales, des militants en faveur de l'émancipation des mœurs et contre le conflit au Vietnam.
Buffalo Springfield, qu'est-ce que c'est bon. Sur la vaste prairie de Monterey, il existe déjà un événement musical.
Depuis 1958, un festival de jazz qui va se muer pendant 3 jours non-stop en une manifestation pop-rock. L'idée vient notamment du producteur et manager en vogue Lou Adler et du chanteur des Mamas and the Papas, John Phillips.
6 semaines à peine de préparation, tout le monde se retrousse les manches.
Chaque membre du comité d'organisation improvisé tente dans son coin de convaincre son groupe ou artiste préféré de venir à Monterey. La femme de John Phillips, membre également de The Mamas and the Papas, Michelle Phillips jette son dévolu sur Otis Redding. Otis Redding qui se produit pour la première fois devant un public essentiellement blanc.
Et le premier jour, le vendredi, fait office de tour de chauffe.
Avec Simon & Garfunkel dans la catégorie des anciens, du côté des petits nouveaux, la première sensation se nomme Janis Joplin.
Le deuxième jour met à l'honneur la scène de San Francisco.
Jefferson Airplane en tête, The Birds et le Steve Miller Band.
Et sous les nuages gris du dimanche, Jimi Hendrix enflamme sa guitare avant de la fracasser sur le sol.
La vision de cette guitare sacrifiée choque profondément le maître du sitar, également présent Ravi Shankar.
Et pour conclure le festival, c'est au tour du chanteur Scott McKenzie de monter sur scène.
Sa chanson avait été choisie un mois plus tôt pour promouvoir l'événement. San Francisco devient l'hymne absolu du Flower Power.
If you're going to San Francisco, be sure to wear.
In the streets of be sure to wear some flowers in your hair if you come to San Francisco.
Le 18 juin 1967, Scott McKenzie mettait un point final à 3 jours de fête au mythique festival de Monterey, épicentre du mouvement hippie porté par une nouvelle génération de jeunes en quête de paix, d'amour, de liberté, d'insouciance avec un petit peu de drogue aussi. La ville californienne de Monterey est surtout devenue, il y a 53 ans, le précurseur, la pionnière de tous les grands rassemblements musicaux en plein air.
C'était la partition d'Amblin Rush, la chronique qui chaque matin nous fait regretter de ne pas être né quelques décennies plus tôt. Merci Amblin. Bonjour Christophe Ondelatte.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Votre histoire du jour est disponible dans votre application de podcast. Aujourd'hui, l'affaire Turquin, Jean-Louis Turquin, un vétérinaire de Nice qui, en 1991, a tué son petit garçon de 7 ans pour reconquérir sa femme. Depuis la rentrée, vous le savez, il n'y a plus d'heure pour écouter Ondelatte raconte.
Ah ça, on commence à le savoir. Merci beaucoup Christophe, Ondelatte raconte. Épisode disponible dès maintenant sur votre appli de podcast et toujours à partir de 14h sur l'antenne d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, votre matinale se poursuit dans la joie et la bonne humeur avec Mathieu Béliard aux commandes. A tout de suite sur Europe 1.
Presque 5h56, la matinale d'Europe 1 se poursuit avec Julien Pierce et Mathieu Béliard.
Bonjour mon général. Non, aujourd'hui s'il vous plaît quand même. Bonjour Julien, vous allez bien?
Très bien et vous-même?
Ça va.
on est quand même une génération qui n'a pas connu ça, l'armée et tout ça.
Non.
Oui, effectivement.
On
oui.
est 3 petits jeunes oui. en studio.
C'est très lucide. J'ai
bien vu Amblin faire ses classes. Ouais. Du coup, le bon général, il m'a un peu surpris comme ça d'entrée.
Caporal Roche.
Ça va depuis ce matin?
Gardez
ça va depuis 5h?
Oui.
Oui.
Oui, ça va bien.
J'ai réveillé nos auditeurs.
Ça va.
Voilà, la bonne humeur.
Ça va très, très bien.
Et bien, la matinée se poursuit, vous le savez,
bonne
sur Europe 1.